Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Cess.
Bonsoir Agdaï.
Bienvenue sur Syllab, en direct de la bibliothèque universitaire centrale de Rennes 2. Aujourd'hui, c'est un 6h avant minuit spécial nuit de la lecture.
Les Lunes à lecture, c'est un événement national et qui s'étale sur 4 soirées, du 23 au 26 janvier. Le thème de cette 9e édition n'est nul autre que les patrimoines.
Au programme de cette émission, deux interviews, les coups de cœur des bibliothécaires, mais aussi des lectures par des artistes drag. On ne vous en dit pas plus pour le moment.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Cyriane, tu reçois des invités ce soir.
En effet, Aglaé. Badge de l'université autour du cou, épines radis sur le cœur, pas de doute, je suis bien avec la responsable de l'action culturelle à la BU de Rennes 2, Clarisse Grasset, bonsoir.
Bonsoir, je me permets juste une petite correction, je ne suis pas la responsable de l'action culturelle, c'est ma collègue Catherine, je suis son adjointe.
Pardon.
Voilà. Non, il n'y a pas de souci.
pull beige recouvrant une chemise à petits motifs, il est auteur, peintre, enseignant au CIREF, et oui tout ça, et il vient nous parler ce soir du Liraton, c'est Guillaume Marbeau. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour commencer l'émission. Les nuits de la lecture cette année ont un thème, comme tu l'as dit Aglaé, c'est les patrimoines. Donc pour ces patrimoines, et donc pourquoi, enfin, quel patrimoine, parce qu'il en existe plusieurs, ils sont au pluriel, de quel patrimoine parle la programmation cette année ?
Alors, c'est le secret un petit peu de la programmation des Nuits de la Lecture tous les ans, c'est souvent un thème assez général qui laisse l'ouverture aux participants et aux participantes pour justement trouver des œuvres en rapport avec ce sujet. Donc les patrimoines. C'est vrai que quand le thème est tombé, au début, avec les collègues, on s'est dit « Ouh, c'est triste, les patrimoines, c'est vieux, il y a déjà les journées du patrimoine, pourquoi les patrimoines ?» Et puis en réfléchissant bien, en fait, les patrimoines, on peut y trouver plein de choses. Tout ce qui est hérédité, tout ce qui se transmet de nos aïeux, des idées qui sont transmises aussi par nos cultures, ça peut être donc vraiment ce qu'on hérite de nos pères, mais ça peut être aussi des bâtiments, ça peut être un patrimoine culturel, un patrimoine mondial, voilà. Donc c'est vraiment très vaste.
Et donc dans cette programmation, il y a notamment un spectacle debout, il me semble. De quoi il parle ce spectacle ?
Alors ce spectacle va aborder le thème du patrimoine, puisque ça va parler des luttes féministes à Rennes dans les années 70. Donc je ne vais pas trop développer le sujet parce qu'on a une invitée tout à l'heure, je crois, Frédéric Mingan, qui est une lectrice de ces textes et qui pourra sûrement vous en parler un petit peu plus. Mais voilà, donc c'est une création qui est en cours, en fait, qui est organisée par la compagnie 13-10e en Nut. Et donc 8 autrices ont écrit des textes sur des sujets en rapport avec le féminisme. Et il y aura 3 lectures ce vendredi.
Et quelles autres activités on pourra retrouver ici à la BU en temps réel ?
Alors, à la BU, on vous propose 2 spectacles. Donc, comme vous en y aura donc la lecture de Debout, ce sera vendredi à 13h à la BU centrale. Et demain soir à 18h, on accueille une lecture performance drag, donc par 3 artistes de la scène drag rennaise. Donc Mouni, qui est présente ce soir et qui vous parlera un petit peu plus tard, et qui parlera sûrement un petit peu de la prestation, Soleil et Évaporé. Et donc, c'est une lecture drag sur les thèmes des patrimoines qu'elles ont choisis. Je crois que ça va aborder notamment l'anticolonialisme, la culture queer, le freak show, entre autres. Et donc, c'est demain à la BU Centrale, toujours, à 18h. Je précise que ces 2 spectacles sont gratuits et ouverts à tous. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes les bienvenus.
Et c'est pas le seul endroit, l'ABU, dans lequel il y a des activités en rapport aux nuits de la lecture. Il y a aussi le Liraton. Et donc, Guillaume, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un Liraton ?
Alors, le Liraton, ça va être donc des... ça va durer de midi à minuit. Et c'est une succession de lectures à voix haute de différents textes. Il y aura différentes langues aussi, dont des langues rares. C'est aussi bien des étudiants que des auteurs. Voilà, ça va être cette expérience de lecture à voix haute. Je trouve que c'est bien aussi, on parle de patrimoine, de faire vivre les textes, quels que soient les textes littéraires, des textes peut-être moins littéraires, mais qu'ils soient lus, lus à haute voix, c'est important.
Et c'est donc le CIREF qui a été choisi pour organiser ce Liraton. Pourquoi c'est le CIREF qui a été choisi ? Est-ce que vous pourriez rappeler déjà qu'est-ce que c'est que le CIREF ?
Alors le CIREF, c'est un service de l'université, mais c'est un service qui propose des programmes de formation pour les étudiants étrangers. Nous avons plus de 70 nationalités, à peu près 800 à 1000 étudiants étrangers au CIREF. Et ce sont deux collègues, Gaël Zanol et Amandine Chevalier, qui se sont vraiment investis dans la mise en place du Liraton. Et il y aura des étudiants et d'anciens étudiants du CIREF qui participeront, ainsi que des partenaires étrangers à distance, donc en virtuel évidemment, mais qui participeront à cette opération.
Oui, parce que le Liraton, enfin les nuits de la lecture, pardon, c'est un événement qui a lieu dans plus de 40 pays, c'est ça, il me semble ?
Oui, il me semble.
Et donc, il y aura des personnes de ces pays
Oui, alors je ne connais pas le détail exact des intervenants, parce que moi, je participe au Liraton en tant qu'auteur, pas du tout en tant qu'organisateur, mais j'ai vu sur le programme qu'effectivement, il y a des prises de parole dans différents fuseaux horaires, différents continents même.
Et du coup, comme vous l'avez dit, vous venez pour présenter votre... Enfin, pas forcément le présenter, mais lire un extrait de votre livre, Le Poisson des classes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce livre, de quoi il parle ?
Alors, donc moi, mon nom de plume, c'est Balthazar Kaplan. Hein, vous avez deux invités pour le prix d'un. Et je vais effectivement... C'est un livre que j'ai sorti en juin dernier. Alors en fait, quand j'ai été invité par Gaëlle et Amandine, je ne connaissais pas le thème de ces, donc le patrimoine, mais c'est un livre qui se passe en Antarctique, dans le futur, et finalement, bah, c'est aussi le patrimoine naturel, et le thème du livre, c'est finalement ce continent qui va devenir un peu la proie de tensions géopolitiques et aussi de multinationales, parce que on l'oublie un petit peu, mais l'Antarctique, c'est un vrai continent avec une terre très riche en ressources minières. Il y a du pétrole en Antarctique et il y a aussi évidemment de formidables ressources d'eau potable. Et donc, je me dis que vu l'évolution du monde, d'ici peut-être 20 ou 30 ans, quand on aura réglé le sort de l'Arctique, on s'intéressera à l'Antarctique. Et l'Antarctique est, en termes de ressources, beaucoup plus intéressant encore. Il est plus loin, c'est ce qu'il protège pour l'instant. Mais un jour ou l'autre, voilà. Et mon livre se situe dans ce futur proche. Donc le personnage essaye de faire ce qu'il peut pour sauver l'Antarctique. Alors il y a toute une histoire, bien sûr, mais ça ne se passe pas très bien.
Il y a notamment ce milliardaire, il me semble,
Brian Zagin, effectivement. Alors moi, je mets à peu près 3-4 ans à écrire un texte. Je me suis beaucoup inspiré d'Elon Musk, mais c'est pas facile d'écrire aujourd'hui parce que je trouve que la réalité dépasse la fiction. Mon personnage, je le trouve déjà pas très sympathique, mais le vrai personnage d'Elon Musk a vraiment dépassé mon personnage, donc je suis un petit peu jaloux. J'aurais dû faire un personnage encore beaucoup plus méchant et beaucoup plus insupportable.
Et donc vous êtes beaucoup inspiré de la réalité. Enfin, est-ce que vous êtes, par exemple, allé là-bas ou en Antarctique ?
Aller en Antarctique, c'est évidemment très difficile, donc j'y suis pas allé. J'ai beaucoup voyagé, donc je me suis inspiré et puis j'ai fait pas mal d'alpinisme, donc je me suis inspiré de ces expériences de voyage et aussi d'expériences de la neige, de la glace. Mais aller en Antarctique. Alors, je me demande si... je crois que c'est justement parce que je ne suis pas allé en Antarctique que j'ai pu écrire un livre sur l'Antarctique. Je pense qu'il faut une part de désir et un peu de mystère. Je pense que l'expérience serait tellement forte qu'on serait tenté après d'être dans du journalisme ou dans du reportage, de rendre compte d'une expérience. Et l'imaginaire ne serait plus là, quoi. Donc il faut... j'ai toujours été... On parle, je pense, à Joseph Conrad. Un des meilleurs livres de Joseph Conrad, c'est Nostromo. Joseph Conrad a vécu dans plein de pays, il a fait le tour du monde. Et son meilleur livre se passe dans un endroit où il n'est jamais allé. L'Amérique centrale. Voilà, je trouve ça... Voilà, c'est le pouvoir de la littérature aussi, de pouvoir investir. Ça ne veut pas dire qu'on se trompe. Alors, bien sûr, il y a un gros travail de documentation. J'ai même rencontré des personnes qui étaient allées là-bas. Mais il faut laisser une part aussi. Enfin, il faut faire confiance à la littérature et à l'imagination.
À l'imagination, en effet. Et aussi, comme vous l'avez dit, à d'autres sources par rapport à des... À la réalité. Et donc, est-ce que vous auriez, en rapport avec ce thème cette année, enfin vous deux, Clarisse et Guillaume, des ressources que vous conseillez, qui évoquent ce thème des patrimoines à conseiller ?
Moi, la première réponse, mais elle est évidente, c'est la littérature. C'est un formidable patrimoine. Il faut lire, encore lire et relire. C'est très important. Quelqu'un disait que la vraie lecture commence à la seconde lecture. Et je crois que c'est vrai. C'est vrai. Moi, je suis dans un âge où je commence à relire. Et en fait, je m'aperçois que je n'ai pas du tout le même regard et la même expérience d'un texte que je pensais connaître. Donc voilà, c'est lire et relire. C'est important.
Et vous, Clarisse ?
Eh bien, en tant que bibliothécaire, je suis évidemment d'accord. Si vous voulez quelques ressources, chers auditeurs, vous pouvez toujours consulter le site du CNL qui propose une bibliographie, en tout cas avec des œuvres sur le sujet. Et puis, vous pouvez aussi écouter nos petites pastilles sonores qui proposent une dizaine de lectures. Les pastilles sonores, c'est un petit quiz littéraire qu'on propose à nos usagers, que ce soit à la BU sur une borne à l'étage, à la BU centrale, ou alors sur Instagram. Et donc, le quiz consiste en une petite lecture d'une minute lue par des bibliothécaires d'œuvres en lien avec les patrimoines. À vous de trouver les titres et l'auteur. Vous pouvez gagner des petits cadeaux, donc n'hésitez pas à participer, notamment des chèques cadeaux à Le Fire.
Et on peut jouer notamment sur Instagram, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, il y aura une pastille sonore par jour. Donc, il faut répondre directement sur Instagram. Donc, les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Il y a aussi une petite borne dans les murs de la bibliothèque. Donc, n'hésitez pas à participer.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 6h avant minuit.
Merci.
Merci à vous deux.
Merci à vous.
Merci.
Et merci à Cyrène pour ce très bon interview.
De rien.
Et merci Clarisse Grasset d'avoir préparé cette transition. Vous faites le travail pour nous, c'est merveilleux. Mm-hmm. On va évidemment écouter une de ces pastilles sonores. Hashtag devinette. Écoutons ça tout de suite.
Tout ce qui a pu être découvert à ce sujet dans l'Antiquité a été colligé par Mériadoc Brandybouc, futur maître du pays de Bouc. Et comme lui-même et le tabac du quartier sud doivent tous deux jouer un rôle dans l'histoire qui va suivre, on peut citer ici les remarques qu'il a consignées dans l'introduction de son herbier du comté. Cet art, écrit-il, est certainement celui que nous pouvons revendiquer comme étant de notre invention. Nul ne sait quand les hobbits ont commencé à fumer. Toutes les légendes et les histoires familiales le tiennent pour acquis. De tout temps, les gens du comté ont fumé diverses herbes, certaines plus âcres, d'autres plus douces. Mais toutes les sources s'accordent pour dire que Tobold de Suncornet, de Fondrelon, dans le quartier sud, fut le premier à cultiver la véritable herbe à pipe dans ses jardins au temps d'Isengrim II, vers l'an 1070 du compute du comté. La meilleure du pays provient encore de cette région, en particulier les variétés que l'on nomme aujourd'hui feuilles de Fondrelon, Vieux Toby et Étoiles du Sud.
Ces pastilles sonores sont donc à retrouver, comme nous le disions, à la BU sur une borne ou sur le compte Instagram. Et si vous trouvez quelles sont les œuvres lues, il y a bien évidemment des petits cadeaux et bons d'achat à faire valoir à la librairie Le Fire.
Et à présent, nous recevons Élise Meyer, responsable de la médiation et de la recherche à la BU de Rennes 2. Et vous venez nous parler des coups de cœur des bibliothécaires. C'est ça ? Bonsoir.
Bonsoir. Alors, on dit coup de cœur des bibliothécaires parce qu'habituellement, on est plusieurs. Cette année, je suis la seule à le faire, mais c'est pas grave. Du coup, je vais vous faire un truc incroyable. Ça va être sur un super bouquin et comme chaque année, je vais faire de la science-fiction vu que je suis prévisible. Mais voilà.
Super, bah merci. Je prends le relais. Donc oui, je n'ai pas fait la petite description. On n'en prive pas. Donc pour nos auditeurs et auditrices, c'est une tradition d'un cidre avant minuit. Élise Meyer, donc de la BU de Rennes 2, avec une chemise très paysagère. Comment ne pas la décrire en fait ? C'est magnifique, on dirait une peinture de. Je ne sais pas.
C'est une chemise qui fait très années 70, effectivement. Ah oui. Que j'ai trouvée en friperie. Magnifique. Elle est incroyable. Hein.
J'adore.
C'est ma chemise préférée. Il
faut regarder les stories sur Instagram pour voir cette magnifique chemise. J'arrête de diverger. Élise, donc, quel est le coup de cœur des bibliothécaires cette année ?
Alors, cette année, vu le thème du patrimoine, alors j'ai hésité parce que de base, j'ai une forte tendance à aimer la littérature aussi romantique. Avec le romantisme noir particulièrement. Donc moi, le patrimoine de base, je me suis dit, je vais faire quelque chose avec un livre qui est en train de parler d'architecture gothique, ça va être super, ça va être sombre. Et en fait, je me suis dit que je n'avais pas de livre récent, en tout cas vraiment préféré, qui m'évoquait ça. Je n'avais pas envie de prendre quelque chose qu'en fait, ce n'était pas un vrai coup de cœur. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais revenir sur la science-fiction.
On revient aux bases. Hein.
On revient aux bases. Et je me suis rappelée en fait d'un livre que j'ai lu il y a 2-3 ans, qui est assez étonnant au niveau du patrimoine. C'est pour ça que je me suis dit que ça va être assez chouette de vous en parler. Qui s'appelle Chronique du Pays des Mers, qui a été écrit par Elisabeth von Harbour. Donc de base, cette personne est française, elle est née à Paris. Mais en 1973, elle est partie au Québec pour suivre son mari. Et en fait, au Québec, elle a assisté vraiment au début de la science-fiction québécoise auquel elle a pris part. À tel point que maintenant, elle est un peu surnommée la grande dame de la science-fiction québécoise. En France, elle n'est pas si connue, parce que je pense que c'est un nom qui ne vous dit sûrement pas grand-chose, à part pour les amateurs de science-fiction. Alors qu'en 2018, elle avait quand même eu le prix extraordinaire pour son œuvre aux Utopiales. Voilà. Et donc, le Chronique du Pays des Mers, c'est un de ses livres les plus connus. Il est sorti en 1992. C'est la suite de son premier grand succès qui s'appelait Le silence de la cité, et qui est sorti bien plus tôt, en 1981. C'est un livre qui a reçu en plus pas mal de prix, hein, Chronique du Pays des Mers, mais il a été quasiment oublié à tel point que ce livre a été finaliste du prix Hervé Foulon pour le livre oublié de l'année. Okay. Donc c'est dire. Donc c'est un gros pavé, comme vous pouvez le voir.
On est sur quoi là, du 500 voilà. pages
non, ouais, même chose plus, comme ça, je pense qu'on plus. Est sur du 750, voilà, en poche. Donc c'est du gros pavé, ça bloque bien les portes, mais si je voulais amener, c'est pas pour vous en dégoûter, c'est plutôt pour vous donner envie de le lire. Donc c'est de la science-fiction qui se passe sur Terre, on est plusieurs centaines d'années après notre époque, il y a eu une apocalypse, donc on est sur un récit post-apocalyptique qui s'appelle ici Le Déclin, tout simplement, et on a un peu oublié ce qui s'est passé à ce moment-là. Vu qu'on est au moins, je pense, 300 ou 400 ans après cette sorte d'apocalypse. On est dans un monde où l'espèce humaine a été frappée par un certain nombre de dégénérescences au niveau génétique, qui fait que notamment, il n'y a plus que très peu de naissances masculines. Il n'y a quasiment plus que des femmes. Et ça a mené d'abord, après cet apocalypse, ça a mené d'abord à une période terrible qui s'appelle les harems, où c'est, comme son nom l'indique assez clairement, c'est les quelques hommes restants qui ont mis en esclavage les femmes. Il y a une révolution, s'en sont suivies les ruches, où là c'est l'inverse, les femmes sont devenues extrêmement tyranniques. Et on est encore après les ruches, on est donc au pays des mers, où il ne reste plus grand monde, hein, faut voir, c'est des petites villes. Mais donc on est dans une société matriarcale et donc où la survie de l'espèce est donc gérée de manière matriarcale au sein de familles, c'est l'équivalent de petites communes quoi. On est donc aussi dans une société où on reste religieux, on croit en un dieu qui s'appelle, enfin une déesse
pour le coup, qui s'appelle Élie, et qui est vraiment un amalgame entre une sorte de mère nature et de Dieu. Et ce livre, il est particulièrement intéressant parce qu'il y a vraiment des réflexions sur les types de sociétés possibles que moi je trouve c'est vraiment passionnant. On a aussi, alors qu'on est en 1992, il y a déjà une réflexion aussi sur la linguistique. Parce que vu qu'on est dans une société matriarcale, il n'y avait pas trop de raisons pour que le masculin l'emporte encore sur le féminin dans le langage. Et surtout, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, on y fait aussi de l'archéologie. Et c'est pour ça qu'on revient sur le thème patrimoine. Donc on est dans une archéologie du futur. C'est super. Ça veut dire qu'on essaie de trouver des traces de ce qui se passe un peu maintenant. Voilà. Ça, je trouve ça, pareil, très passionnant. Et comme c'est le cas aussi aujourd'hui, parce que j'ai une autre activité qui est celle d'historienne. Donc forcément, ça m'intéresse. On voit vraiment l'importance du passé sur le déroulement du présent. Et la protagoniste, qui s'appelle Liz Bay, essaye de trouver justement des traces du passé qui est vu comme quelque chose de maléfique. Justement, tout ce qui est antérieur au déclin, c'est ce qui a mené à cette situation. Donc c'est un peu le mal, surtout au niveau de la religion. Il ne faut pas trop chercher à savoir ce qui s'est passé. Liz Bay, ce qui est intéressant, c'est qu'elle cherche aussi du coup des traces du passé à partir de vieux contes. Et ça rebondit sur des choses qui se font actuellement. Hein. On se sert aussi de la littérature, parfois, pour essayer de corroborer des théories. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est Troie. On a essayé de trouver, à partir du récit homérique, on a essayé de trouver la ville de Troie, et ça a plutôt marché. Voilà. Donc, je vais vous lire peut-être mon
extrait. Avec plaisir. Le temps de chercher dans les 750 pages.
C'est surtout que, bien sûr, mon marque-page a glissé, mais j'ai noté le numéro de la page, donc tout va bien. Donc là, pour vous dire juste où on en est, et comprendre un peu le récit qui se fait, on a la chef d'une des villes qui se prononce sur qu'est-ce qu'on est censé faire d'objets qui ont été trouvés. Et en fait, ils ont trouvé l'équivalent d'un musée. Ils ont trouvé énormément de choses dedans. On ne sait pas exactement quoi, mais il y a notamment des œuvres d'art. Et il n'y a jamais eu une découverte pareille depuis des centaines d'années. Et ça peut tout bouleverser, réellement. Donc qu'est-ce qu'on fait d'un tel bouleversement? Qu'est-ce qu'on fait de ces objets? Et donc cette chef va parler de ce qu'elle, elle pense le mieux pour ces objets. Et on a après la petite réflexion de Liz Bay à ce sujet. Non, la seule façon d'exorciser ces objets, ces œuvres, ces reliques du passé, ce n'est pas de les rassembler en un seul endroit, au contraire. Ce n'est pas non plus de les détruire. Les ruches l'auraient fait, mais nous ne sommes plus si aisément effrayés. C'est d'en faire un partage, oui, pas seulement entre les membres de l'expédition de Belmont et les autres ayants droit, mais entre toutes les familles et à l'intérieur même des familles, pour toutes celles qui le désirent. C'est de les faire entrer dans les réseaux d'échange. C'est de nous les approprier en leur donnant des valeurs qui soient les nôtres. C'est de les faire vivre à nouveau aussi, en leur donnant une chance de rédemption comme nous avons eu nous-mêmes cette chance. Car si elles viennent du déclin, nous en venons aussi, à travers les harems, à travers les ruches, ne l'oublions pas. Mais Élie a voulu que, contrairement à nous, ces œuvres soient soustraites au temps et qu'elles réapparaissent maintenant sans avoir parcouru les mêmes chemins que nous dans la trame de sa tapisserie. Pensez-y, chacune de ces œuvres a sans doute été créée par une personne et une seule. C'est donc à chacune de nous que revient la responsabilité de les intégrer, une par une, au fil de notre vie, qui est aussi le fil d'Élie. Liz Bay ne pensait plus à protester ni à s'étonner. Elle écoutait l'écho en elle de la dernière phrase de Tula. Une dolore, une gigantesque dolore, non pour le déclin, mais pour celle qui l'avait vécu et y avait succombé. Une dolore de renaissance qui durerait aussi longtemps que les œuvres passeraient de main en main au fil des échanges.
Merci Élise Meyer. Est-ce qu'on peut rappeler le titre de l'ouvrage et l'auteur ?
Oui, donc c'est Chronique du pays des mers d'Elisabeth von Arbour.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Un livre qu'on, j'imagine, pourra retrouver à la BU. Mais maintenant, nous recevons Gaëlle Debeau. Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence en littérature générale et comparée de Rennes 2.
Tout à fait.
Je laisse Héloïse compléter si besoin.
Bien sûr, avec un beau pull bleu électrique qui laisse transparaître le col d'une chemise à carreaux. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quel coup de cœur, c'est votre coup de cœur maintenant que vous êtes venue me présenter. Donc, de quel livre s'agit-il ?
Alors, moi, je vais vous parler d'un livre qui n'est pas une fiction, qui n'est pas un roman. C'est un texte d'Italo Calvino qui s'appelle « Pourquoi lire les classiques ?» Donc, voilà, j'ai fait ma prof, en fait. j'ai choisi un ouvrage qui nous permet de réfléchir au thème du patrimoine par le biais de la théorie et pas par le biais de la fiction directement, même si en fait je vais beaucoup vous parler de fiction que j'aime. Voilà.
C'est parti.
Peut-être que moi je voulais commencer par lire mon extrait qui est petit, si ça vous va, pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce texte-là. Donc en fait, c'est Pourquoi lire les classiques ? C'est un ouvrage, donc plutôt Italo Calvino, c'est un auteur italien du XXe siècle qui est décédé en 1985. Voilà, c'est un auteur qui a écrit beaucoup de récits, de contes philosophiques, de romans, et qui a beaucoup réfléchi à la littérature, sur la littérature, sur son rapport à la littérature. C'était un très grand lecteur, Italo Calvino. Et c'est un auteur que, pour le coup, je pense qu'on peut à bon droit ranger dans le patrimoine littéraire européen, italien de façon certaine, et puis européen au sens large. Et c'est un de mes auteurs fétiches aussi, voilà, je dois le dire.
Je pense qu'on a tous eu un de ses livres dans nos cursus du collège, voilà, voire du lycée.
Ouais, ça m'étonne pas du tout. Marco Valdo, par exemple.
Si c'est un homme.
Ouais. Alors ça, si c'est un homme, c'est Primo Levi. Mais Primo c'est la
Levi,
même
n'importe
époque,
quoi.
Même époque.
Okay. On aurait... Je sais pourquoi je l'ai associé à Italo Calvino.
Même époque. Quoi. Même époque, et on aurait
quoi
pu...
Le baron perché, le vicomte voilà.
Pourfait. Merci, ça s'est augmenté là pour relever le niveau.
Mais non, j'aurais pu parler de Primo Levi aussi, parce que son œuvre, si c'est un homme, c'est vraiment un patrimoine. Ouais. Enfin, ça fait partie du patrimoine.
J'ai associé les deux.
Et notamment par rapport à ce que disait Clarisse tout à l'heure du rapport à l'histoire et de la transmission de l'histoire. Si c'est un homme, c'est une œuvre monument même. Et donc, pourquoi lire les classiques de Calvino ? C'est un recueil d'articles en fait que l'auteur italien a écrit à propos de tout un tas d'auteurs. Principalement d'auteur, pas d'autrice, je crois pas, de la littérature européenne. Donc voilà, il est passé au travers de sa bibliothèque, en quelque sorte, et il a consacré des textes à chacun des auteurs qui constituent son propre patrimoine personnel, peut-être. Il ouvre son texte par une section qui s'appelle « Pourquoi lire les classiques ?». Donc je vous lis juste deux petits passages. Commençons par proposer une définition. 1. Les classiques sont ces livres dont on entend toujours dire « je suis en train de le relire » et jamais « je suis en train de le lire ». Cela, du moins parmi ceux à qui l'on suppose de vastes lectures. La règle ne vaut pas pour la jeunesse, âge auquel la relation avec le monde et avec les classiques en tant que partie du monde a précisément forme de première rencontre. En France, on commence à lire Balzac à l'école et à en juger par le nombre des éditions en circulation, on peut croire que les Français continuent de le lire plus tard. Mais si l'on faisait en Italie un sondage, je crains que Balzac n'apparaisse que vers les derniers rangs. Les passionnés de Dickens en Italie ne représentent qu'un groupe restreint de personnes qui, lorsqu'elles se rencontrent, se mettent aussitôt à évoquer épisodes et personnages comme s'il s'agissait de gens de leur connaissance. Il y a quelques années, Michel Butor, qui est un écrivain français du milieu du XXe siècle, du nouveau roman, enseignant en Amérique et las de s'entendre toujours interroger sur Émile Zola, qu'il n'avait jamais lu, se décida à lire tout le cycle des Rougon-Macquart. Il découvrit quelque chose de bien différent de ce qu'il croyait, une fabuleuse généalogie mythologique et cosmogonique qu'il décrivit dans un très bel essai. Tout cela pour dire que lire pour la première fois un grand livre à l'âge mûr est un plaisir extraordinaire. Différent, mais ni supérieur ni inférieur pour autant, du plaisir qu'on aurait eu à le lire dans sa jeunesse. Voilà, je voulais commencer par lire ce petit extrait. Après, Calvino propose d'autres définitions de ce que serait un classique, parce que pour plusieurs raisons. D'une part, parce que j'entends dans la notion de patrimoine, et notamment quand on essaie de se dire, non pas quelles seraient les œuvres littéraires qui réfléchissent au patrimoine, comme l'exemple précédent l'a montré, des œuvres littéraires qui pensent à l'architecture, aux monuments, etc., mais des œuvres littéraires que l'on considère comme patrimoniales. Il y a toujours quelque chose dans ce rapport à ces œuvres-là, une espèce d'idée qu'il faudrait les connaître, il faudrait les avoir lues, qu'il y a des œuvres incontournables. Et dire ça, c'est presque d'emblée gâcher la lecture, c'est-à-dire c'est presque d'emblée couper l'envie de lire. Et c'est vrai, vous lisez les Rougon-Macquart de Zola aujourd'hui, c'est comme une série télé, c'est incroyable, il y a des rebondissements en veux-tu en voilà, c'est une lecture vraiment tout à fait passionnante, mais si on la considère comme du patrimoine, on arrive avec des a priori. Et Calvino, qui est un grand lecteur, il essaie de déconstruire dans cet ouvrage-là cette idée-là, à partir de la notion de classique, qui n'est pas tout à fait la même que celle du patrimoine, c'est-à-dire ce qu'on apprend dans les classes. Et ben moi, nécessairement, en tant qu'enseignante, c'est une question que je me pose. J'ai des œuvres que j'adore, qui me sont propres. Il y a des œuvres qui font partie d'un patrimoine commun dont ma mission est de parler, parce que mon rôle, c'est de transmettre ces œuvres-là. Comment je fais pour en parler? Comment je fais pour transmettre le goût de ces œuvres-là à mes étudiantes et à mes étudiants? Parce qu'on est là, après tout, parce qu'on aime lire, hein, a priori. Voilà. Et comment on fait pour construire du savoir autour de tout ça? Et c'est ce à quoi réfléchit beaucoup Calvino dans ce texte. Et je vous recommande vraiment la lecture de Pourquoi lire les classiques.
Et donc, vous disiez que Calvino cite surtout des auteurs et peu d'autrices, même pas d'autrices.
Ouais.
Est-ce que cette notion de classique, du coup, peut évoluer au fil du temps? Est-ce qu'on redécouvre des classiques qui étaient, pour une raison ou pour une autre, je pense à des classiques écrits par des autrices au fil du temps.
Moi, je trouve que c'est très important et que c'est un des rôles de la recherche en littérature aujourd'hui. Pour moi, la recherche en littérature aujourd'hui, elle a tout un tas de rôles, mais deux rôles qui, moi, me tiennent à cœur, c'est cette idée-là, c'est-à-dire de ne jamais considérer que ce qu'on a construit comme classique, c'est-à-dire ce qu'on a transmis au fur et à mesure des années et ce qu'on considère comme faisant partie du patrimoine est quelque chose de figé. À mon sens, c'est quelque chose qui doit être remis, en question, et même des auteurs qui peuvent faire partie du patrimoine peuvent aussi être à certains moments reconsidérés, un peu minorés, enfin leur place peut être un peu minorée, et on peut mettre en lumière d'autres auteurs et surtout des autrices. Ça nécessite un travail. Ça nécessite un travail d'exploration, d'archives, un peu de décentrement du regard aussi. Et puis l'autre enjeu, je trouve, qui est lié à ça, c'est aussi comment, quand on travaille sur la littérature contemporaine, ce qui est mon cas pour le coup dans la recherche, comment on sait parmi les œuvres qu'on étudie lesquelles vont faire patrimoine, lesquelles vont rester, lesquelles méritent d'être enseignées dans les classes pour devenir des classiques, et comment on participe à ça en tant qu'enseignant dans le secondaire, enseignant-chercheur à l'université, comment on contribue à ce geste de patrimonialisation en parlant des œuvres, en les transmettant. Les ont circulé, quoi.
Est-ce que vous avez un exemple en tête comme ça d'une œuvre qui a été redécouverte il y a peu en ce moment?
Ouais, alors c'est très spécifique. Je pense que c'est pas très très représentatif, mais quand même c'est un texte que j'aime vraiment beaucoup. Je travaille par ailleurs sur la question de la forêt en ce moment dans mes recherches, parce que la forêt est un thème très très présent dans l'actualité littéraire et artistique, même au sens large, et notamment, je suis sûre que tout le monde en a en tête, hein, des récits post-apocalyptiques où la seule chose qui reste, c'est la forêt, on va survivre dans la forêt, etc. Et on cite souvent, alors, une autre autrice comme une des premières grandes auteurs-autrices à avoir écrit sur le sujet, c'est Jean Egland, qui est une autrice américaine, peut-être canadienne même, peut-être que je me trompe, qui a écrit un texte qui s'appelle « Dans la forêt ». Mais en fait, avant elle, il y a une autrice autrichienne, très très peu connue, mais qui mérite vraiment d'être découverte, et dont le roman dont je vais vous parler, on en entend beaucoup parler ces derniers temps. C'est une autrice autrichienne qui s'appelle Marlène Haushofer, je ne sais pas du tout comment on prononce, je ne parle pas autrichien ou allemand, qui a écrit un roman qui s'appelle « Le mur invisible », dans les années 60, si je ne me trompe pas, qui est considéré comme un roman de science-fiction parce que le roman s'ouvre sur ce personnage féminin qui vient rendre visite à sa sœur et au mari de sa sœur qui vivent dans une petite maison de chasse au bord de la forêt, enfin dans la forêt. Et le mari et la femme décident de partir le soir pour une petite fête dans le village voisin. La protagoniste n'y va pas, se réveille le lendemain matin, sa sœur et son beau-frère ne sont pas revenus, elle est toute seule dans la maison, et donc ce qui est étonnant, quoi. Et quand elle sort de chez elle, elle se rend compte qu'entre elle et l'espace de la maison et tout ce qui entoure la maison, la montagne, etc., et le reste du monde, il y a comme un mur invisible qui s'est mis en place, de l'autre côté duquel tout est figé. Donc voilà, il n'y a pas de catastrophe visible, etc., mais elle voit un petit paysan qui est à moitié en train de pousser sa brouette, mais il est figé dans cette action, etc., et tout le monde est figé, et elle se retrouve toute seule dans cette forêt, et ce récit-là, c'est le seul élément de science-fiction et ça s'arrête là. Et ce récit-là, ensuite, c'est uniquement comment est-ce qu'elle réussit à réinventer sa vie seule dans cette bulle dans la forêt, dans sa cabane dans la forêt. Et alors c'est un récit qui est complètement passé sous les radars, voilà, et qu'on redécouvre parce que le thème de la forêt est très présent aujourd'hui, qui permet de redécouvrir à la fois donc une autrice et aussi un champ littéraire très peu exploré qui est la littérature autrichienne. Je suis pas sûre que comme ça, spontanément, on puisse tous et toutes citer des ouvrages de littérature autrichienne.
D'accord. Donc, bon conseil d'un classique oublié. Ouais. Et si vous deviez conseiller un classique connu à nos auditeurs auditrices,
ouais, je pense que je repartirai sur l'exemple du début des Rougon-Macquart d'Émile Zola. Vraiment, faites-vous plaisir, lisez les Rougon-Macquart si ce n'est pas déjà fait. C'est très divertissant.
Est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots cette histoire?
Ouais, les Rougon-Macquart, c'est tout un cycle de romans d'Émile Zola. Donc il y en a vraiment beaucoup. En plus, c'est comme si vous vous lanciez dans je ne sais pas quelle série, Lost, avec plein d'épisodes comme ça et plein de saisons. L'auteur, en fait, c'est de la fiction. Mais la démarche d'Émile Zola derrière est aussi une démarche, si on veut, sociologique avant l'heure. L'idée, c'est de focaliser le regard sur une famille, une descendance, etc., une lignée, dans la deuxième moitié du 19e siècle en France, et de voir comment ils évoluent. Bon, c'est de la fiction, donc c'est les placer dans des contextes, etc. Et en fait, chaque volume, chaque tome est centré sur un personnage. Par exemple, Nana, qui est centrée sur une jeune femme qui se prostitue, et qu'est-ce qui lui arrive, et pourquoi elle en arrive là, et qu'est-ce que sa vie devient. Et en fait, ça va de mal en pis. Enfin, vraiment, c'est les Rougon-Macquart, c'est une lente descente aux enfers en plus. Donc, et en fait, chaque livre se suit. Donc, on peut les lire les uns à la suite des autres, mais on peut les lire aussi de façon indépendante. Et voilà, on suit des personnages à qui il arrive tout un tas de choses compliquées, quoi. Et en même temps, on suit l'histoire de la France et les évolutions de Paris, de la banlieue parisienne, des faubourgs, etc. Donc, c'est aussi un accès à l'histoire d'une certaine façon.
Super. On a de quoi rajouter dans notre liste choses à lire. Merci beaucoup, Gaëlle Debeau.
Merci à vous.
Oui, merci beaucoup. On a maintenant un maximum de recommandations littéraires. À présent, Gwenola reçoit Frédéric Mingan. Elles arrivent. Vous êtes la directrice artistique et la metteuse en scène de la compagnie 13-10e, si je ne me trompe pas, et vous venez nous parler de votre projet qui s'intitule Debout. Bonsoir.
Bonsoir, ravie d'être là.
Bonsoir Frédéric Mingan, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez un pull rouge à rayures et un grand sourire. Alors nous allons commencer par vous demander, donc vous êtes un total de 8 autrices. Comment avez-vous collaboré pour écrire vos textes ? Vos textes ont-ils été écrits indépendamment les uns des autres tout en suivant un fil directeur ? Chaque texte est-il présenté sous une perspective différente ?
Alors, peut-être déjà préciser, puisque vous êtes sur mon pull à rayures, que mon pull à rayures est ouvert sur la gauche et que dessous, on aperçoit un t-shirt qui est lui aussi à rayures. Je suis très fière de ce choix aujourd'hui.
C'est génial, quel raccord.
Je me permettais de le signaler. Du coup, juste pour vous dire, le projet Debout, c'est un projet qu'on mène à deux metteuses en scène, donc moi-même et une autre metteuse en scène qui se nomme Delphine Batour. Et on a décidé de se pencher théâtralement sur les luttes féministes des années 70. Et on a passé commande à 8 autrices. Donc du coup, les 8 textes pour lesquels vous me posez cette question sont 8 textes qui ont été écrits par 8 autrices que nous avons invitées sur des thèmes que nous avons choisis. Et donc ce sont 8 pièces courtes.
D'accord. Et avez-vous ciblé la lutte féministe sous un angle précis ? Comment est-ce que chaque texte est présenté ?
En fait, il y a un gros combat super connu dans les années 70, c'est la lutte pour la légalisation de l'avortement. Celui-là, il est très connu parce que aussi il a réussi, puisque en 75, la loi Veil est passée. Il y a un combat qui a juste terminé les années 60, qui est moins connu, c'est celui de la contraception. Avant 1967, c'était illégal. Ça, c'est quand même assez dingue aussi. Mais on n'avait pas envie de parler seulement de la contraception ou de l'avortement, parce qu'on trouvait que les années 70 en elles-mêmes, c'était une période dingue de militantisme. et que en termes de lutte pour les femmes, il s'était passé beaucoup d'autres choses à côté, grâce aussi, c'est-à-dire que l'IVG avait permis une espèce de focalisation comme peut le faire aujourd'hui MeToo, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où soudain ça fait consensus qu'il se passe quelque chose là. Et du coup, il y a plein d'autres sujets qui ont pris un peu le devant de la scène, que ce soit la question des ouvrières, que ce soit la visibilisation des lesbiennes, que ce soit par exemple la première création d'une association de femmes noires, la coordination des femmes noires à Paris en 76, que ce soit sur la question du viol. Ça date aussi des années 70, toute fin, avec le procès Tonglet-Castellano. Donc voilà, en fait, on avait envie, plutôt que de se concentrer sur un endroit, un petit peu raconter le début de plein de choses.
Mmh, d'accord. Donc vous le dites, vos textes nous plongent au cœur des luttes féministes des années 1970. Quelle résonance ont-ils aujourd'hui ?
Parce que j'avais cette sensation, mais en lisant Michel Perrault, donc une historienne, the historienne sur la question de l'histoire du féminisme, elle dit qu'il y a des moments comme ça de résurgence, des périodes qui se ressemblent. Et la période qu'on est en train de vivre ressemble beaucoup à cette période des années 70. On retrouve, c'est pour ça que je parlais de MeToo, mais la question des violences sexistes et sexuelles, par exemple, elle est cette espèce de locomotive qu'avait pu être en son temps celle de la légalisation de l'avortement. Et du coup, on retrouve un petit peu ce schéma-là avec une militantisation plus importante, plus visible, parce qu'on peut militer, mais si on le fait tout seul, ben voilà. Donc ces deux périodes-là, je trouvais qu'elles elles avaient un écho, et je trouvais aussi que c'était chouette de se souvenir qu'on s'appuyait sur d'autres femmes qui s'étaient battues avant nous, qui avaient avancé sur des choses, qui avaient raté des choses. Il y a plein d'endroits dans ces textes où on se dit « Oh, waouh, bah, en fait, c'est pareil. Voilà. » Mmh. Et d'autres endroits où on se dit « Ah oui, d'accord. Ah oui, non, quand même, nous, non. » Voilà, donc c'était un petit peu faire cette...
En quelque sorte, on doit savoir d'où on vient pour savoir où on va.
Oui. Et... savoir dire merci aussi.
Oui, c'est ça, se rappeler de toutes ces luttes. Mais aujourd'hui, face à nos droits qui sont encore menacés, quelle place occupe le théâtre et plus largement la culture, d'après vous, dans nos sociétés ?
Alors là, c'est une sacrée question. Là.
c'est large et complexe.
À plein de choses. Enfin, je me dis, sous un certain angle, c'est, l'art et la culture, c'est des endroits qui nous permettent aussi de faire un pas de côté par rapport à nos vies quotidiennes qui sont faites de plein de contraintes, qu'elles soient matérielles, sociales. C'est l'endroit où bien on plonge plus profond, ou alors on surplombe, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, on se déplace. Et c'est un endroit qui permet ça. C'est un endroit aussi de partage. Je pense à ce qui se passe, par exemple, dans les Pays de la Loire, avec ces chutes catastrophiques des budgets. C'est drôle, c'est pas drôle, mais c'est drôle de voir comment tous les autres corps de métier disent « Ah non, mais si ce festival s'arrête, mais moi, mon café, moi, mon restaurant, moi, ma ville... » Voilà, c'est-à-dire que, en fait, la culture et l'art sont un peu comme l'importance des abeilles, quoi. C'est-à-dire que ça permet la pollinisation, voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de pollinisation, qu'on parle d'écologie ou qu'on parle de culture et d'art.
Oui, la culture est indispensable, mais le théâtre est-il encore un espace de résistance où les idées peuvent s'exprimer librement ?
Brecht disait « le théâtre, c'est parler haut et fort ». Et c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est toujours un enjeu de réussir à parler haut et fort. S'exprimer, c'est toujours un enjeu. C'est toujours difficile. C'est toujours un risque. Et je pense que le théâtre, c'est cet endroit où on engage sa parole, où on engage son corps, où on accepte d'être dans un espace et de se dire « j'y suis et on me voit ». Voilà. Et je pense que, justement, sur le sujet de debout, par exemple, la visibilisation, c'est une des grandes questions. C'est ce que disait aussi Gaëlle Debout juste avant. Comment est-ce qu'on décide de porter le regard sur peut-être des romans des siècles précédents, voilà, visibiliser. Je trouve que le théâtre, c'est un endroit qui permet de rendre visible.
Tout à fait. Nous allons terminer rapidement avec une dernière question. Votre création Debout est en cours d'achèvement. Comment allez-vous la compléter ? En ce moment, vous êtes d'ailleurs en résidence à l'université. Comment est-ce que ça se passe ?
C'était la semaine dernière et c'était très émouvant parce que c'était la première semaine de résidence de création. C'est-à-dire que depuis un an, donc on a les textes, les 8 textes depuis un an, on les lit. C'est ce qui va se passer vendredi à la BU à 13h. Donc, on va lire 3 pièces courtes. Mais la semaine dernière, c'était la première fois qu'on allait sur un plateau pour la mettre en scène. Et donc, c'était un moment très, très émouvant de se dire, voilà, soudain, ça prend vie, quoi. Et donc, c'était, ouais, c'était une très belle semaine.
Merci beaucoup Frédéric Mingan d'avoir été avec nous ce soir. Et pour tous les auditeurs et toutes les auditrices, rendez-vous ce vendredi 24 janvier à la BU de Rennes 2 pour découvrir les textes du projet Debout.
Merci beaucoup à vous deux.
Et d'ailleurs, vos textes vont être utilisés comme support de création lors de la causerie, l'occasion de parler haut et fort avec un atelier radiophonique en mixité choisie. C'est organisé par Syllab avec Héloïse, chargée de rédaction de la radio, et Emma, chargée des ateliers radio.
Et d'ailleurs, ça se passe samedi de 10h à 18h sur le campus Villejean. Et le résultat de cette création sera diffusé le 8 mars, donc la journée de lutte pour les droits des femmes.
6h avant minuit.
Nous recevons à présent Mouni, artiste drag locale, qui sera à la BU dès demain pour proposer une lecture performance drag en compagnie d'Évaporé et de Soleil.
Mouni, pouvez-vous nous offrir un avant-goût radiophonique de ce qui se passera à l'Agora demain soir ?
Bonsoir. Alors demain soir, on va parler patrimoine queer, majoritairement. Moi, plus précisément, je vais parler patrimoine creep et freak, en revenant notamment aux origines des freak shows. Et pour ce soir, j'ai eu du mal à me décider en termes de patrimoine et j'ai décidé de parler d'un patrimoine un petit peu invisible, voire complètement invisible, qui est le patrimoine de la communauté grosse. Quand j'avais 8 ans, j'ai découvert un texte qui s'appelle « Le journal de Grosse Patate », qui est un texte de théâtre écrit par Dominique Richard en 1998. Et c'est la première représentation que j'ai eue de moi dans une œuvre, quelle qu'elle soit. Donc j'ai décidé de vous en lire quelques extraits ce soir.
On t'écoute.
On m'appelle Grosse Patate. Ce n'est pas mon vrai nom. On m'appelle comme ça parce que j'aime manger. J'aime tellement manger, pétard de pétard. Je mange tout le temps. En famille, je mange. Quand je m'ennuie, je mange. Aux anniversaires, je mange. Je goûte tout ce que les autres mangent. Le matin, je prends un sandwich que je plonge dans mon chocolat au lait. Le midi, je finis tous les plats à la cantine. À 4 heures, je goûte. Le soir, je dîne. Et certaines nuits, je me lève pour voir ce qu'il y a dans le frigo. Je fais des rêves remplis de gâteaux, de pain au chocolat, de crème chantilly. Je mange en cachette, je fouille dans les placards, dans les armoires, à la cave. C'est très embêtant d'aimer manger parce que, même en se cachant, ça finit toujours par se voir. Je sais que je suis belle pourtant, beaucoup plus belle que Rosemary Pécola qui est un clou pointu. Ma peau est douce, mes joues sont rondes, elles donnent envie de déposer des baisers. Et puis j'ai de plus beaux pieds. Mangez-moi, ça m'endort. Bonne nuit la lune, bonjour mes rêves. Grosse patate, est-ce que tu dors ? Oui. Tu rêves ? Oui. À quoi rêves-tu ? Je rêve que je mange un énorme gâteau au chocolat. Quel plaisir ! Grosse patate, tu vas encore grossir. Tu vas encore être la risée de tout le monde. Pour être gentil, on te dira « Alors, ma petite grosse, bonjour, ma grassouillette. Oh, les beaux jambons !» En parlant de mes cuisses. Tiens, en voilà une qui aime la soupe. Le pire, ce sont les gens qui veulent être gentils. Mais à l'école, on t'appellera encore « Grosse patate, miam miam, crème chantilly. » La terreur des cantines. Enfin, ça, c'est le directeur de l'école. Bouche couloir, casse balançoire, 3 chaises. Papa m'appelle ma gazelle ou ma très belle, mais ça m'énerve. Je sais bien que je ne suis pas belle. On a raison de m'appeler grosse patate. Dans son rêve, on décide que grosse patate doit maigrir. Il faut monter sur la balance et crac, ça y est, c'est décidé, régime. Le docteur dit, tout doit circuler comme un courant d'air. Que du vent, le repas doit être léger comme un vol d'abeilles. Au menu, une feuille de salade, 2 cuillerées d'épinards, 1 kiwi. Stop, c'est fini. Grosse Patate se dit que ses rêves sont épuisants. Elle passe ses nuits à manger, puis à faire des régimes. Cher journal, aujourd'hui on m'a raconté une drôle d'histoire. C'est l'histoire de Narcisse. Narcisse est un beau jeune homme, si beau que tout le monde tombe amoureux de lui. Mais lui n'aime personne. Un jour, il se penche sur une fontaine pour boire. Il aperçoit d'ailleurs son reflet et tombe aussitôt amoureux de lui-même. Il reste penché sur son image, immobile et silencieux, à se contempler, à se sourire, à se faire des clins d'œil. Moi, les histoires, ça me donne envie de dormir. Hein. Bonne nuit la lune, bonjour mes rêves. Grosse Patate, est-ce que tu dors? Oui. Tu rêves? Oui. À quoi rêves-tu? Je rêve de Hubert. Grosse Patate rêve que Hubert vient de tomber amoureux de lui-même. Il était dans la salle de bain, en train de se faire la raie du côté gauche, quand brusquement, s'apercevant dans le miroir, « Pétard de feu de bois !» il s'écrie. « Celui que j'aime, c'est moi !» Hubert reste collé au miroir de sa salle de bain, à se susurrer des mots d'amour. « Comme je suis beau !» Je suis encore plus beau quand je me fais la raie sur le côté gauche. « Quels beaux cheveux !»« Comme je m'aime !» Il passe son temps à se peigner, il rate l'école et ne mange plus. Je tourne la page. Grosse Patate se dit que finalement, ce n'est pas si facile de s'aimer soi-même. Que d'inconvénients. Il faut éviter les fontaines et les miroirs, sans quoi on risque de rester collé devant son image sans même pouvoir manger. Quelle horreur. Cher journal, aujourd'hui la maîtresse nous a donné des devoirs très difficiles. Il était question d'une épicerie avec des tomates et des bananes. Il fallait trouver le nombre de bananes qu'on pourrait acheter pendant qu'on mangerait des tomates et qu'on pèserait l'épicière. Ou quelque chose comme ça. Je n'ai rien compris. À la fin, j'étais tellement épuisée et énervée que j'ai pris les bananes, je les ai multipliées par les tomates, moins le prix de l'épicière. Je ne savais plus ce que je faisais, j'ai divisé le tout par le nombre de baignoires de l'exercice précédent. Papa a voulu vérifier mes devoirs. Au début, il a eu du mal à comprendre. Il répétait « Mais pourquoi les baignoires ?» Quand il s'est aperçu que j'avais tout mélangé, il m'a regardé comme s'il m'était poussé des oreilles de lapin. « Ma fille est idiote », il a dit. J'ai pleuré. Il m'a consolée, puis il m'a expliqué. On ne multiplie jamais les tomates par les bananes. Il faut laisser les tomates avec les tomates et les bananes avec les bananes. Chaque chose à sa place, avec son étiquette bien à elle. Les devoirs, moi, ça m'assomme. Bonne nuit la lune, bonjour mes rêves. Dernier extrait, je tourne les pages, difficilement. Discours à la lune. Je suis seule. Hubert n'est pas amoureux de moi. Rémi m'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Rosemary est jalouse. J'erre dans les rues. La nuit est douce. J'entends le bourdonnement de la ville. Et toi, la lune, est-ce que tu es aussi seule que moi? Grosse boule blanche, muette et ridicule, qu'as-tu à nous dire? Grosse patate, toujours pareil, toujours la même histoire. La laideur me veut, m'enveloppe, m'appelle. Viens, grosse patate, viens à moi, tu seras moche et ta mocheté te protégera des autres. Tu seras seule et on te regardera en souriant. Monstre, un monstre parle à la lune. Je vais être moche, encore plus moche, toujours plus moche, être la plus moche des moches. Je voudrais m'enterrer, disparaître, ne plus être rien, rejoindre maman. À quoi ça sert tout ça? Je ne veux plus grandir, je ne veux plus grossir. Je ne veux plus être moi, je ne veux plus rien. Être du vent. Dis-moi la lune, pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi les gens sont cruels? Pourquoi les gens sont oublieux? Ça ne sert à rien tout ça. Je parle, mais est-ce que tu m'écoutes? Parler à la lune, ça change quoi? Peut-être que c'est bien que tu ne puisses pas répondre. Peut-être que c'est bien que tu sois là, simplement, silencieuse, et que tu me regardes bêtement. Peut-être que ça suffit de parler. Je me sens légère maintenant. Je continuerai de parler, nous serons tous légers, et un jour, ce sera bien d'être quelqu'un, même une grosse patate. Il fait froid, la nuit m'enveloppe, papa va s'inquiéter. Bonne nuit la lune, je rentre me coucher.
Merci beaucoup pour votre très belle lecture. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le titre de ces textes?
C'est le journal de Grosse Patate de Dominique Richard.
Merci beaucoup. Et où est-ce que nos auditoristes peuvent se rendre pour vous voir performer?
Alors déjà demain à la BU à 18h et aussi le surlendemain dans les locaux de l'élaboratoire qu'on habite minimum une fois par mois, mais peut-être plus, pour un show sur le thème du futur, qui s'appellera Chronique Futuriste.
Ok, c'est noté, merci beaucoup.
Et puisque tout le monde a eu le droit à son petit portrait vestimentaire, précisons que vous portez un haut noir manche chauve-souris avec une jupe assortie au rouge lavé bordeaux. Donc on a vraiment des invités qui ont le sens du chic.
Merci.
C'est déjà la fin de cette émission 6h avant minuit spéciale Nuit de la lecture. On remercie Clarisse Grasset ainsi que la bibliothèque universitaire de Rennes 2 de nous avoir accueillis. Sans oublier notre équipe syllabienne.
Pour rappel, cet événement autour du plaisir de la lecture commence demain et se poursuit jusqu'à dimanche. C'est ouvert à toutes et à tous et tous les événements sont gratuits. Aussi, demain de midi à minuit, vous pouvez participer au Lire-a-ton. Venez lire dans la langue de votre choix ou bien écouter des lectures et rencontrer des autrices et des auteurs. Pour cela, rendez-vous au tiers-lieu de l'espace des langues au campus Villejean de l'université Rennes 2 ou en ligne depuis le monde virtuel Rennes 2D.
D'ailleurs, SILAB vous propose de gagner 10 licences d'une validité de 11 mois pour des livres numériques dans la collection Monde en VF. Une collection de la marque Didier Fleux qui accompagne les profs de français langue étrangère dans leur pratique d'enseignement et destinée aux différents publics d'apprenants. Pour tenter votre chance, c'est bien simple, il vous suffit d'un mot de passe et à le renseigner sur notre site silab.fr. Le mot de passe du jour est Jules Verne. Et bien évidemment, on vous souhaite de très bonnes lectures.
Très bonnes lectures.
La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h-19h sur SILAB, la radio sauvage.